Déclenché en fin d'après-midi entre 17h et 20h. D'abord en Bourgogne, dans le Morvan a priori, sur une partie de la Franche-Comté aussi. L'élément caractéristique, c'est pas tant le vent, c'est plutôt la grêle et les intensités de pluie. Et ces orages vont se propager demain soir, voire dans la nuit, de mercredi à jeudi, vers la Champagne-Ardenne, l'Île-de-France, vers les Hauts-de-France et peut-être même la Haute-Normandie. Donc attention.
Merci Marlène Duret. La France bouge à présent. Bonsoir Elisabeth Tassayag.
Bonsoir Pierre. Ce soir, je me trouve à Anglette, près de Bayonne. Et oui, c'est notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie. On va parler d'économie du sport avec des pépites françaises et basques. Vous allez voir, ça va être passionnant. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Bonne émission, Elisabeth.
Bienvenue sur Europe 1. Il est 21h. L'essentiel de l'actualité avec Maëlle Hassani. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Une marche blanche pour dire adieu à Matisse. Elle aura lieu dans les rues de Châteauroux samedi prochain. Ces mêmes rues où l'adolescent de 16 ans a trouvé la mort le week-end dernier, poignardé à mort par un jeune Afghan de 15 ans. Le suspect est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Sa mère, accusée d'avoir violenté Matisse, est également mise en examen dans cette affaire. Il est le chef présumé du clan Yoda, l'un des deux principaux gangs de narcotrafiquant marseillais. Félix Bingui accepte d'être extradé vers la France. Cet homme de 33 ans a été arrêté au Maroc début mars et selon son avocat, il entend revenir dans l'Hexagone le plus rapidement possible pour se défendre. La procédure devrait être validée la semaine prochaine par la Cour de cassation. Des bâtiments de Sciences Po, théâtre de rassemblement pro-Gaza partout en France encore aujourd'hui. C'était le cas à Rennes, Lyon, Grenoble, Dijon ou encore à Reims. À chaque fois, les manifestants ont évacué les lieux sans incident majeur. Manifestation également à la fac de Tolbiac à Paris où les cours ont été annulés cet après-midi ou encore à l'université de Saint-Étienne. Là-bas, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour évacuer l'établissement. Faire pression en faveur d'une trêve des combats à Gaza, c'est l'objectif du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken qui est arrivé en Israël. Il appelle le Hamas à accepter sans plus tarder les propositions mises sur la table par les négociateurs. Un arrêt des combats pendant 40 jours assorti de la libération de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Israël attendra la réponse du mouvement terroriste jusqu'à demain soir. Mais Benjamin Netanyahou prévient une offensive sur la ville de Rafah sera lancée, que la réponse soit positive ou négative. Un homme de 36 ans placé en détention à Londres, c'est lui qui a attaqué à l'épée plusieurs personnes dans les rues d'un quartier résidentiel de la capitale anglaise ce matin. Un adolescent de 14 ans est décédé et 4 autres personnes sont blessées, dont 2 policiers. À ce stade, la piste terroriste est écartée. Buckingham Palace fait savoir que les pensées et prières du roi d'Angleterre vont à tous ceux qui ont été affectés par ce drame. Et puis c'est parti pour les demi-finales aller de la Ligue des Champions de football. Le Bayern Munich affronte le Real Madrid. Le coup d'envoi vient tout juste d'être donné. Et demain soir, évidemment, n'oubliez pas le choc Dortmund-Paris Saint-Germain. Vous écoutez Europe 1, il est 21h03 et place maintenant à La France bouge avec Elisabeth Assayag.
Merci Maëlle Hassani. Rendez-vous 22h pour le journal sur Europe 1.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Gérard Larcher.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci de votre présence.
C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins 3 explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran.
La question de l'autorité est posée depuis si longtemps qu'il est largement temps de passer des intentions aux actes.
Les faits, c'est quoi? C'est une jeune fille qui ment, qui dit qu'elle a été agressée, qu'elle a été violentée par un enseignant, donc clairement qui lui met une cible dans le dos.
La violence, la faute à qui? Aux parents, oui, débordés ou qui laissent faire.
2 387 000 à écouter Europe 1 tous les jours. Merci, encore merci de votre fidélité. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Valorisons les entreprises responsables. Tout de suite, la France bouge avec les trophées Generali PME Enterprise.
La France bouge.
21h, 22h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans La France bouge sur Europe 1, au service de l'entrepreneuriat. C'est la sixième étape de notre grande tournée avec les chambres de commerce et d'industrie. Et ce soir, nous avons installé nos micros à Anglette, près de Bayonne, plus précisément à Olatou. C'est une pépinière qui héberge des entreprises créées par la CCI Bayonne Pays Basque. Elle est spécialisée, cette pépinière, notamment dans les sports de glisse. D'ailleurs, Olatou signifie vague, je crois, en basque. Ça tombe bien, à quelques semaines des Jeux d'été, on va découvrir des entreprises basques et locales, au savoir-faire particulier, le Pays Basque, capitale du surf européen, mais aussi terre privilégiée pour l'économie de la glisse. Mais pas que. Bonsoir, Mandy Crescenzo.
Bonsoir.
Je suis ravie de vous retrouver, président de CCI France. Ça vous plaît, le Pays Basque ?
J'adore. Et Goudon.
Et Goudon, ça... Alors là, oh, il est fort. Hein.
Voilà.
Ça veut dire bonsoir. Toujours à fond. Hein. C'est vraiment l'entrepreneur qui parle. Hein.
C'est vraiment l'entrepreneur qui parle. Alors, je suis très heureux d'être là.
Ouais, moi aussi.
Très heureux parce que c'est beau, parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a de la vie, parce qu'on a envie de partager l'aventure du Pays Basque. Et donc, heureux d'être là. Mais je crois que je ne suis pas le seul.
Ah, moi, je suis ravi d'être là.
J'ai compris que c'était la même chose pour vous.
Bah, c'est un peu une terre de cœur. Je suis née ici. Voilà, vous savez tout, les auditeurs et les auditrices d'Europe. Hein. Non, mais voilà, c'est formidable. Vous êtes notre coach aussi ce soir. Hein. Alain Di Crescenzo, président de CCI France, coach de La France bouge jusqu'à 22h ce soir sur Europe 1. Hein. Ce soir, trois entreprises, chacune dans l'univers du sport. Bonsoir, Barbara Sayous. Je suis ravie de vous accueillir, directrice générale de la Maison Forestier. Bienvenue à vous. La Maison Forestier, ce sont des selles de chevaux sur mesure. Tout est fabriqué ici dans la région.
Exactement, tout est fabriqué à Bidart. Donc les ateliers sont au rez-de-chaussée et les bureaux sont en haut.
Vous allez tout nous raconter. Une entreprise qui a plus de 70 ans, une pépite à suivre ici dans le Pays Basque. Bonsoir Sylvain Fleury.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans La France bouge, cofondateur de Wyve. Ça s'écrit W-Y-V-E. Vous permettez d'offrir à chaque surfeur la meilleure expérience. C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Peu importe les conditions, grâce à une imprimante 3D, c'est ça ?
Exactement.
Vous avez apporté vos planches, hein ?
Exactement.
Vous allez nous faire une belle démonstration tout à l'heure dans La France bouge et puis au Pays Basque. Difficile de passer à côté du spectacle d'un jeu de pelote basque. Bonsoir Pierre Gonzalez.
Bonsoir.
Bienvenue dans La France bouge. Vous êtes le directeur de la fabrique de Schistera Gonzalez. Mm-hmm. Pierre, vous perpétuez la tradition familiale de fabrication de ces Schistera.
C'est ça, en effet. C'est une fabrique qui a été créée en 1887 à Bayonne.
1887.
Voilà. Et je suis la quatrième génération et je travaille encore avec la troisième parce que mon papa m'aide et je suis en train de former mon fils aussi qui j'espère prendra la cinquième.
Une belle histoire d'entreprise familiale ici au Pays Basque, bienvenue. Et puis si nous sommes ici à Anglette, c'est parce que nous sommes avec les CCI, alors nous aurons la joie de découvrir les actions de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne et Pays Basque avec André Garreta, le président de la CCI Bayonne Pays Basque. On vous retrouve tout à l'heure, André, la CCI qui accompagne 26 000 entreprises. Allez, bienvenue dans La France bouge. La France bouge, c'est l'émission des audacieux et nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Europe 1.
La France bouge. Elle fait tourner la boîte.
Mais oui, c'est vous la première invitée ce soir sur Europe 1, Barbara Sayous, directrice générale de la Maison Forestier. Vous, donc, vous êtes démarré l'émission. C'est vous qui faites tourner la boîte. Nous sommes ici à Anglette, en plein cœur de cette pépinière qui abrite des entreprises. La Maison Forestier, pourquoi ? C'est parce que nous sommes à quelques semaines. C'est pour ça que nous avons eu envie de faire cette émission ici ce soir. Nous sommes à quelques semaines du démarrage des Jeux d'été. Donc, on s'est dit, il y a des entreprises locales. On va aller faire un petit tour du côté du Pays Basque. Et c'est votre cas avec la Maison Forestier, une maison qui existe depuis plus de 70 ans. Tout d'abord, le rituel, le pitch de La France bouge. Vous vous êtes entraînée, Barbara ?
Je me suis pas entraînée, mais je vais faire ça.
Mais je suis sûre que vous allez faire ça très très bien. On vous écoute, top chrono. Vous avez une minute. La Maison Forestier, c'est quoi ?
Alors, la Maison Forestier fait partie du groupe Voltaire. Le groupe Voltaire qui est une entreprise basée au Pays Basque depuis 2010. Notre métier, c'est de faire des selles d'équitation sur mesure, c'est-à-dire à la mesure du cavalier et du cheval. Chaque produit est unique. On a notamment le label Entreprise du patrimoine vivant qui reconnaît notre savoir-faire artisanal. Et avec cela, on couple l'innovation avec notamment des capteurs embarqués dans nos selles pour donner des des données vraiment spécifiques aux cavaliers. Puis la Maison Forestier, c'est une marque effectivement qui a plus de 70 ans, créée en 1950, qui a beaucoup d'histoire derrière elle, qui est une marque qu'on a repris en 2016 après un dépôt de bilan, qui est une marque qu'il fallait dépoussiérer, revenir un peu au goût du jour aux yeux des jeunes. Et puis très vite, les meilleurs cavaliers français nous ont rejoints et l'aventure a pris forme et les résultats ont été attendus.
C'est beau. Moi, je vous félicite, hein, Alain Di Crescenzo. Encore un exemple d'une très belle entreprise française dans la France bouge. Elle a failli mourir plusieurs fois, cette entreprise.
Oui, mais ça explique bien que l'entrepreneuriat, c'est pas un parcours linéaire.
Non, c'est pas un parcours linéaire.
Ce qui est important, c'est d'apprendre des difficultés. Alors, j'ai entendu des mots assez sympas, dépoussiérer, etc. Donc, c'est vrai que quand on reprend une entreprise, il faut pas faire la même chose que les prédécesseurs. Et donc, il faut travailler, il faut innover. Et moi, je note, donc, deux éléments, quand même, dans ce qui a été dit. C'est mettre de la technologie dans des outils, des outils, je dirais, du quotidien. Donc, la sellerie, par exemple, qui n'est pas l'outil du quotidien, mais c'est assez traditionnel. Mettre de la technologie, ça a du sens. Et deuxièmement, faire du sur-mesure, ça veut dire se démarquer par rapport à la fabrication de grandes séries. Ça a aussi du sens. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui a un bel avenir, qui a des beaux champions et qui se démarque.
Elle se démarque. Et vous avez raison, Alain Di Crescenzo. Technologie, sur-mesure, donc de la personnalisation. Ce sont des selles de sport sur-mesure pour les chevaux. Nous sommes ici à Anglet, au Pays Basque. Barbara Sayous, pourquoi le Pays Basque? C'est parce que vous avez racheté l'entreprise en 2016. C'est un groupe, c'est le groupe Voltaire, qui est un groupe d'ici.
Tout à fait. Le groupe Voltaire est implanté au Pays Basque par un choix de cœur du président Brice Goguet, qui est vraiment originaire du Pays Basque et qui ne se voyait pas faire son entreprise ailleurs. En revanche, on a pu créer des synergies super importantes localement, notamment avec des fournisseurs de cuir.
Vos fournisseurs de cuir, les tanneries, sont près d'ici?
Exactement, Espelette. C'est un joli village du Pays Basque, si jamais vous avez la chance de venir.
On va revenir.
Et c'est l'une des plus belles tanneries de France.
Donc, ça signifie que vous avez organisé tout cet écosystème. Vous n'êtes pas allé chercher des cuirs ailleurs, au Maroc ou autre. Non, vous faites tout fabriquer ici. C'est aussi pour ça que vous êtes labellisée entreprise du patrimoine vivant, entre autres. Donc, tout est fabriqué en France. Nous sommes à quelques semaines des Jeux Olympiques. Est-ce que vous travaillez avec des cavaliers sélectionnés pour ces Jeux d'été?
Tout à fait. Les derniers Jeux, trois des cavaliers français, deux étaient en Forestier. Donc, c'est une énorme fierté pour la marque, pour l'entreprise. On a même vu les Jeux en direct dans notre entreprise. À toutes nos pauses du midi, on était à fond derrière eux. Cette année, on espère aussi que les cavaliers français seront en Forestier. Aujourd'hui, sur la longue liste, comme on dit, sur les fédérations.
Vous ne savez pas encore qui?
On ne sait pas encore.
Je ne pensais pas, c'est sera la juillet, dernière minute?
Début juillet, c'est très très proche de l'échéance.
Donc ils s'entraînent là, vous les accompagnez. Bon, les selles sont déjà faites, j'imagine. Tout est prêt.
Tout à fait, on est prêt. On les suit chaque jour. On a des nouvelles, donc on a hâte d'avoir la sélection finale pour voir si on sera dignement représenté aux Jeux Olympiques.
Alain Di Crescenzo, vous êtes le président de CCI France. Vous êtes aussi notre coach ce soir sur Europe 1 dans La France bouge. L'impact attendu de ces Jeux d'été olympiques, paralympiques sur l'économie française. Là aussi, c'est colossal pour nous.
Oui, c'est colossal. Les investissements ont été significatifs puisqu'il y a 12 milliards d'euros d'investissements qui ont été réalisés. Donc tout ça, ça va nous amener du tourisme, tout ça, ça nous amène du commerce, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Ça crée bien sûr des infrastructures qui sont pérennes et qui seront réutilisées après. Donc pour nous et pour nos entreprises, parce qu'on questionne les entreprises, à savoir qu'est-ce que ça va vous porter, qu'est-ce que ça va vous apporter les Jeux d'été. Et donc ce qu'on a comme message aujourd'hui, c'est que globalement 56% des entreprises nous disent que ça aura un impact positif sur l'image de marque de la France en termes de branding. À peu près 50% nous disent que ça sera positif en termes économiques, retombées économiques. Et si maintenant on regarde les commerçants ou l'hôtellerie-restauration qui sera autour des villes qui organiseront donc les Jeux d'été, donc là on s'aperçoit qu'il y a un impact significatif. Donc tout ça, ça fait gagner de l'image de marque, tout ça, ça crée de l'emploi, puisqu'en termes d'emploi, ça crée 150 000 emplois.
150 000 emplois générés rien que pour les Jeux d'été.
pour les Jeux d'été. Et tout ça, si vous voulez, bien sûr, ça crée de l'économie. Vous savez qu'on a cruellement besoin de croissance. Et on va aller chercher quelques petits points de, ou dizaines de points de croissance autour des Jeux d'été.
Mais alors, pourquoi tout le monde râle quand on vous entend parler du crescendo? C'est une formidable opportunité, ces Jeux.
Mais qui râle?
Tout le monde. Hein, franchement, venez à Paris. Alors, là, on est dans cet îlot. On est au Pays Basque. La vie est belle. Mais venez aller faire un tour à Paris. Ça râle toute la journée.
Alors, Paris n'est qu'une partie de la France,
oui,
vous savez. Donc après, il y a d'autres villes qui organisent les Jeux Olympiques. Et puis, allez voir les commerçants, allez voir l'hôtellerie-restauration, allez voir les revenus qu'ils vont en tirer. Je vous assure que ça ne râle pas à plus de 50%.
Ici, au Pays Basque, il fait bon vivre. Les entreprises ont pris le pas, elles ont compris. Notamment, c'est votre cas, Barbara Sayous. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la Maison Forestier, donc une entreprise française qui existe depuis plus de 70 ans, qui a été rachetée par le groupe Voltaire, entreprise du Pays Basque, en 2016. Quand je dis qu'il fait bon vivre, c'est aussi parce que... Il y a combien de salariés chez vous?
Chez nous, il y a 230 salariés.
230 salariés au sein du groupe?
Oui, au sein du groupe. Et chez Forestier, nous sommes 80.
80. Il y a quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai regardé un petit peu ce que faisait la Maison Forestier, c'est que vous êtes adapté à l'environnement, à la région, puisque vous avez opté pour la semaine de 4 jours, payé 5 jours.
Exactement.
C'est important de le signaler, on est dans l'entrepreneuriat, on est dans les entreprises qui vont bien. Racontez-nous.
On a mis en place la semaine de 4 jours il y a maintenant un an. Ça a été sur la base du volontariat au début. Vote à main levée, qui a envie de passer à la semaine de 4 jours?
C'était 100% de main levée?
C'était quasiment 100% de main levée. Tout le monde était super partant. Il a fallu mettre en place des choses hyper spécifiques, suivre des KPI. Donc ça n'a pas été facile, mais on a optimisé toutes les pertes de temps, ce qu'on a appelé les sujets pertes de temps, donc les réunions interminables, les notifications qui viennent nous enlever de notre travail en pleine concentration. Donc on a optimisé tous ces sujets et puis on s'y est mis et c'est un vrai plaisir, c'est un bonheur aujourd'hui de faire la semaine de 4 jours et on a les mêmes résultats, voire mieux.
C'est incroyable, ça aussi encore exemple à lundi crescendo, exemple d'une entreprise qui va bien, elle va hyper bien parce qu'en plus de ça vous êtes tourné vers l'international depuis un an et ça cartonne, vendez des selles aux Américains, ils adorent les selles basques.
C'est ça, ils adorent les selles basques, tout ce qui est français, c'est hyper important.
C'est un rayonnement particulier, à lundi crescendo, président de CCI France.
Oui, simplement sur la semaine des 4 jours, ce qui est intéressant par rapport à toutes ces règlements, toutes ces lois qu'on a, c'est le volontariat. Et je crois que le bon mot, c'est libérer. Il faut libérer les énergies. Et des entreprises qui sont capables d'y passer, elles y passent. Et donc, c'est bien si vous l'avez fait. En tout cas, je vois qu'il y a de la création de valeur. C'est bien. Autre élément, peut-être, sur le rayonnement de ce territoire. On oublie, moi je retrouve sur ce territoire le rayonnement de la France il y a 200 ans peut-être, ou il y a 100 ans, vous voyez. Donc ça veut dire que quelque part, lorsqu'on a des produits qui sont bien positionnés, et là ils sont tous bien positionnés.
Ah ouais, là les trois entreprises ce soir,
lorsque
bravo.
Les entreprises sont ancrées dans les territoires, au plus profond des territoires, brandent le territoire, entreprise du patrimoine vivant, j'achète, je fais du circuit court, etc. Et lorsqu'on sait communiquer, c'est-à-dire qu'on sait faire, on fait savoir, à ce moment-là ça marche. Donc ici, si vous voulez, c'est un territoire de gastronomie aussi, de recettes, il y a même des recettes de la réussite industrielle. C'est génial.
Réussite industrielle. Barbara Sayous, fabriquer des selles sur mesure pour les chevaux. Si on réfléchit, vous auriez pu le faire partout. Donc c'est un choix, le Pays Basque.
Exactement, c'est un choix. Le vivre au Pays Basque, c'est quand même... on ne se rend pas compte au quotidien, mais il y a la mer, il y a la montagne pas loin.
Emplacement idéal.
C'est un emplacement idéal, très clairement. Et en plus, il commence à y avoir une vraie synergie d'entreprises engagées, innovantes, et ça bouge, quoi.
Ça bouge beaucoup. Vous allez avoir donc les noms des cavaliers pour les Jeux d'été d'ici quelques semaines. Il pourrait en avoir combien? Vous avez des estimations? Combien de cavaliers que vous accompagnez, vous, au sein de la Maison Forestier?
Alors, il y a 3 cavaliers qui feront les Jeux Olympiques dans chaque discipline. Il y a 3 disciplines avec l'équitation. Pour notre part, on a plus de 4 cavaliers qui sont sur la longue liste. Donc, on pourrait dire que tous les cavaliers pourraient être forestiers. Je l'espère.
C'est ce qu'on vous souhaite. Quelle fierté, vous imaginez, dans une compétition mondiale comme ça, le Pays Basque à l'honneur.
Le Pays Basque, l'entreprise, en termes de rayonnement de votre marque. Je veux dire, pour faire après, avoir une reconnaissance internationale, pour augmenter votre dimension, votre chiffre d'affaires, donc ça va être génial. Et c'est à ça que sert aussi les Jeux d'été, puisqu'on parle comme ça. Hein.
Oui.
Donc quelque part, c'est un événement extraordinaire qui sera l'événement qui sera le plus suivi. Et donc pour nos entreprises, c'est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, nous, chambres de commerce. On essaie de mettre en exergue les pépites nationales qui contribuent, donc qui sont sur le passage de la flamme, de façon à ce qu'on les voit au niveau national et international.
Donc vous, oui, c'est vrai, c'est important de le préciser, les chambres de commerce et d'industrie, vous intervenez sur pas mal d'étapes de ces Jeux, c'est important de le préciser, vous allez même aider les commerces, par exemple, des sites olympiques à se mettre, c'est pas anecdotique, rien qu'aux normes d'accessibilité, la CCI intervient.
Alors, oui, la CCI intervient, et puis il faut rendre grâce aussi à l'État français, puisqu'il y a un programme qui a été lancé au mois de novembre dernier de 300 millions d'euros, qui finance à 50% donc les travaux pour l'accessibilité des commerces. Alors vous imaginez que pour pleinement faciliter, si vous voulez, donc tout le business qu'il va y avoir donc du fait de ces jeux, il faut que nos commerces soient accessibles. Alors évidemment, c'est quelque chose de fondamental, l'accès à tous.
Mais oui, mais
en plus, il y a une opportunité là, et donc on a fait une grande opération. On a sollicité 500 000 entreprises. Donc 100 000 ont répondu favorablement, ça veut dire qu'elles ont été touchées par une conférence téléphonique, par des webinaires, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a plus de 2400 dossiers qui ont été déposés ces dernières semaines pour renforcer l'accessibilité.
Donc et ça, une fois que ce sera fait, ça restera.
Alors bien sûr,
Donc, c'est ça qui est intéressant.
Une opportunité, si vous voulez. Ces jeux sont des catalyseurs pour faire cette opération.
Accélérer cette transition.
Et puis, c'est bien pour nos concitoyens qui sont en situation de handicap, bien sûr. Et c'est juste ce qu'on doit faire pour les accueillir. Mais on ne fait pas que ça. On a d'autres opérations. On accueille aussi, bien sûr, les différents événements. Ça peut être dans nos locaux. On prépare les entreprises, si vous voulez, à être sur le parcours de la flamme, de façon à ce qu'elles fassent du business positivement.
Mais ça veut dire quoi, les entreprises sur le parcours de la flamme?
C'est pas compliqué. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui va courir avec une flamme. Ouais. Et puis, il va passer dans les rues, dans nos bourgs, dans nos villages, dans nos villes. Et puis, c'est important que sur ces passages-là, on voit nos pépites, on voit nos entreprises.
On voit, par exemple, Maison Forestier.
Voilà. Et qu'elles puissent organiser des événements pour leurs clients de façon à profiter de ce moment particulier pour faire rayonner leur savoir-faire, leurs collaboratrices et collaborateurs et leur marque.
Et faire rayonner la France. Vous restez autour de la table de la France Bouge ici à Anglette. C'est notre grand tour de France des CCI ce soir sur Europe 1. On va rester dans cet univers du sport avec une autre pépite française, une pépite basque. Elle s'appelle Wive. Ses fondateurs fabriquent des planches de surf en impression 3D. Vous voulez savoir comment ça fonctionne? Vous restez avec nous. On va d'abord écouter Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs sur Europe 1.
Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver, au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle aussi s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
C'est le retour de La France bouge avec les trophées Général IPME Enterprise.
Europe 1, La France bouge. 21h, 22h.
Elisabeth Assayag.
Dans l'ambiance ce soir, vous savez pourquoi on vous met cette très belle chanson des Beach Boys, Surfing USA, mais c'est parce que nous sommes dans le Pays Basque. C'est ça, c'est la France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 22h ce soir sur Europe 1, émission spéciale avec les chambres de commerce et d'industrie. C'est notre tour de France avec les CCI et ce soir tout particulièrement avec la CCI Bayonne Pays Basque. Nous sommes au cœur d'une pépinière d'entreprise, elle s'appelle Olatou, ça se trouve à Anglette et nous sommes avec évidemment le patron de CCI France en super coach, Alain Dick Crescenzo. Alain, le Pays Basque, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est aussi la réindustrialisation qui est si chère pour vous, si importante.
Oui, ce pays qui s'appelle la France sera réindustrialisé ou sera relégué donc dans le milieu du peloton mondial si on ne bouge pas là-dessus. Alors, on a des opportunités, vous le savez, on a 54 milliards d'euros sur France 2030, mais il y a surtout des volontés, des initiatives. Et effectivement, sur ce territoire, on parlait de mer, de montagne, il y a beaucoup d'industries et de projets industriels. C'est les entreprises que l'on voit ici, et donc surtout, il faut les encourager. Il faut les soutenir. Donc l'État le fait, et au premier plan, la CCI de Bayonne Pays Basque est à l'initiative, à la manœuvre sur de l'innovation, sur l'accompagnement de ces entreprises industrielles.
Et de plus en plus, ça attire en plus de personnes chaque année de par cette situation géographique. Barbara Sayous, vous êtes la patronne de la Maison Forestier. Vous avez beaucoup de candidatures, beaucoup de personnes qui ont envie de venir travailler.
On a énormément de candidatures depuis le Covid, pour beaucoup ont envie de venir au Pays Basque.
Des Français ont envie de s'installer ici au Pays Basque. Nouvelle étape donc dans notre grand tour de France avec les CCI, c'est cette tournée des entrepreneurs engagés si importante. On va poursuivre avec vous, Sylvain Fleury, vous êtes le cofondateur de Wive.
Exactement.
Sylvain, vous et votre associé, vous connaissez bien cet endroit puisque vous êtes passé par cette pépinière d'entreprise là où nous sommes, hein, Olatou, pour démarrer Wive.
Exactement. On a créé la société à la pépinière. Notre siège social y est toujours d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on est rentré dans l'écosystème.
Cette pépinière qui a été créée par la CCI Bayonne Pays Basque. On va revenir un petit peu sur votre parcours, si vous voulez bien, Sylvain. Vous êtes ingénieur, diplômé de l'École centrale de Lyon, et votre associé, Léo, est ingénieur de l'École nationale supérieure de technique avancée de Polytechnique Paris. Rien que ça. Donc deux ingénieurs, et votre point commun, votre autre point commun, c'est que vous êtes des passionnés de surf. Vous auriez pu aller travailler dans l'intelligence artificielle, vous aurez pu travailler dans la cybersécurité, en tous ces métiers très en vogue en ce moment. Non, c'est la passion qui l'a emporté.
Ouais, on est passionné de surf et aussi de production et du sujet de réindustrialisation.
Ouais, alors comment ça s'est passé? C'est-à-dire que vous êtes dit, une fois diplômé, parce que vous étiez à Paris, l'autre était à Lyon, vous êtes dit, on va aller à Bidart. Pourquoi Bidart? On le sait aujourd'hui, parce qu'on est en 2024, que c'est devenu quasiment la Silicon Valley des startups. Mais comment vous venez ici? Vous auriez pu rester à Lyon, vous auriez pu rester à Paris?
Effectivement, en fait, on avait fait nos premiers prototypes encore étudiants en région parisienne à l'École Polytechnique. Et en fait, en exposant à des salons, au salon Vivatech à Paris, on a été repéré entre guillemets par quelqu'un de la chambre de commerce d'ici.
Ah, ils sont très forts. Hein.
Qui nous a dit Bayonne, oui, lors de la prochaine session thèse, venez, je vais vous faire visiter des locaux. Et c'est comme ça qu'on a visité Olatou. Et il a pas fallu très longtemps pour nous séduire.
Faut dire que ça vient d'expérience personnelle, hein, pour aller plus loin dans la démarche entrepreneuriale. C'est parce qu'à la fin de vos études, vous ne l'avez pas dit, mais vous étiez quand même à la Défense, dans les grandes tours, et vous alliez surfer tous les week-ends. Et il n'y avait pas un week-end sans que l'un de vous deux, vous ou votre associé Léo, ne casse sa planche. Exactement. Vous l'avez réparée, mais c'était quand même frustrant que chaque week-end, vous vous retrouviez avec une planche cassée. Ça vient de là aussi, la création de Wive.
Oui, ça vient exactement de là. On a en fait cassé trop de planches de surf dans lesquelles on avait mis toutes nos économies de jeunes ingénieurs. Du coup, ben justement, en parallèle de nos premiers boulots à la Défense, on se retrouvait le soir pour essayer de repenser la planche de surf.
La passion ne vous a jamais quitté. Ça donne Wive. Wive a été lancé fin 2019. Vous allez nous dire ce que c'est en une minute et on revient tout de suite après pour le détail. C'est à vous, top chrono.
Du coup, depuis 60 ans, une planche de surf s'est fabriquée de manière assez simple avec un pain de mousse qu'on recouvre de fibres et de résine. Et cette mousse à l'intérieur, elle crée plusieurs problèmes, plusieurs limites pour le surfeur, déjà en termes de durabilité et de résistance. Elle est aussi assez toxique et avec une performance assez limitée qui a peu évolué depuis 60 ans. Et donc c'est pour répondre à ces problèmes qu'on a créé Wive, où on repense la manière de fabriquer la planche de surf pour permettre une expérience de glisse avec plus de performance et moins d'impact. On fait ça grâce à une technologie brevetée qu'on a développée qui se base sur l'impression 3D grand format et qui permet justement de contrôler la mécanique au cœur de la planche, à la fois pour améliorer la performance et la personnaliser, et aussi pour avoir une meilleure résistance à l'impact, une meilleure résistance au choc. Et en plus, ça nous permet d'utiliser d'autres matériaux pour réduire de 40% les émissions de CO2 par planche.
Merci pour votre pitch, merci de vous être prêté à l'exercice, Sylvain Fleury, cofondateur de Wive. Avant de tout commentaire, vous en avez apporté deux, vous pouvez nous la décrire, nous la montrer ?
Oui, bien sûr.
Alors, allez-y. je vous laisse, voilà, vous êtes elle est légère, je crois.
Oui,
c'est ça qui nous a tous frappés avant de démarrer l'émission, c'est qu'elle est hyper légère.
Voilà, ça combine vraiment légèreté et résistance grâce à une structure alvéolaire imprimée en 3D à partir d'un matériau biosourcé qui est le PLA et avec de tailles d'alvéoles modulables à l'intérieur pour pouvoir jouer sur la flexibilité, la torsion de la planche quand elle est sous les pieds et sur la vague pour avoir de meilleures sensations de glisse.
Donc meilleures sensations de glisse et incassable ?
Alors, incassable face à l'océan, c'est compliqué, mais elle est trois fois plus résistante à l'impact. Donc, il faut trois fois plus d'énergie pour casser une planche wave qu'une planche traditionnelle. Mais voilà, face à une grosse vague où il y a une tonne d'eau, on peut pas prôner le incassable non plus.
Et vous vous êtes lancé seul par des business angels, mais aussi par des partenaires publics comme la BPI ou encore la région Nouvelle-Aquitaine. Elle coûte combien cette planche de surf ?
Alors, en fonction de la taille, etc., les planches sont entre 750 et 1000 euros.
Et les circuits de distribution ?
On vend essentiellement en direct pour pouvoir justement proposer la meilleure expérience possible aux clients, donc en ligne ou dans notre showroom, dans notre mini-usine à Anglette. Et on est aussi présent dans quelques magasins sur la côte française.
WYVE Wive. Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Quel regard portez-vous sur Wive ?
Le regard, encore une fois, c'est qu'il y a tous les ingrédients d'une bonne recette. Hein. Donc déjà, le projet est sympa, le produit est innovant et sympathique. Mais surtout, je retiens durabilité, parce qu'on est vraiment là-dedans. Je retiens toxicité, ça veut dire l'environnement, encore une fois. Je retiens aussi le mode de commercialisation en ligne. Et là, vous y visitez un réseau de distribution, donc ça veut dire que les marges sont bonifiées. Je retiens aussi, parce que je suis intéressé
prix.
C'est que le tarif est hyper compétitif. Ensuite, simplement, quand je regarde les alvéoles, ça me rappelle terriblement ce qu'on fait dans l'aéronautique. Ça veut dire que dans ces objets du sport, il y a beaucoup d'innovation et beaucoup de technologie. Beaucoup d'innovation et beaucoup de technologie. Pour votre information, le sport, c'est 12 milliards d'euros d'investissement par an pour un business de 71 milliards d'euros. Donc c'est vraiment, il y a de la techno, il y a de l'investissement. Et c'est comme ça, encore une fois, que notre industrie française va prendre des parts de marché. Donc, il y a une vision, il y a un projet, il y a des femmes et des hommes, j'ai compris la formation des collègues.
Ouais.
Et donc, et surtout, on met de la technologie, on améliore et on vise la durabilité.
Mais là aussi, on est dans la technologie. Donc, c'est le point commun aussi avec les selles de la maison forestière, les selles pour les chevaux.
Mais si on veut gagner, généralement, il faut mettre de la techno partout. Voilà, c'est la juste technologie pour pas que ça soit trop cher, que ça coûte trop cher, qu'on soit toujours compétitif et rentable, mais de la technologie dans les outils du quotidien, dans les éléments du sport, c'est ce qui va nous faire gagner, ce qui vous fait gagner.
Sylvain Fleury, vous êtes le cofondateur de Wive ce soir sur Europe 1. Nous sommes depuis Olatou, cette pépinière d'entreprise à Anglette, près de Bayonne, pour notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie. Comment vous regardent les traditionnels fabricants de planches de surf ? parce que on a envie de dire c'est quasiment l'ancien temps, l'ancien monde.
Alors quand même pas. Non, c'est une très bonne question. Oui, dans le sens où on pourrait penser que c'est assez frontal. Et en fait, pas du tout. Nous, on est en dialogue continu avec les autres fabricants de planches, notamment parce que voilà, comme je disais, ça fait 60 ans qu'on utilise les mêmes matériaux, mais il s'est pas non plus rien passé. Et les fabricants ont beaucoup itéré sur les formes de planches, ce qu'on appelle le shape. Et nous, du coup, en fait, on vient travailler main dans la main avec des fabricants, comme la planche que vous voyez derrière vous, c'est une Wive et Cabianca. Cabianca, c'est un shaper fabricant traditionnel de Gabriel Medina, qui est triple champion du monde. Et en fait, on travaille main dans la main. Donc lui, il va fournir le shape, la forme extérieure. Et nous, on vient imprimer en 3D et du coup, construire toute la technicité qui est à l'intérieur de la planche.
Donc ce que vous nous dites là, Sylvain Fleury, c'est que vous pourriez être complémentaire aux fabricants traditionnels de planches de surf.
Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on a une rupture.
Donc, il y a une solution.
Exactement. Et en fait, on pourrait être soit se dire on est seul contre tous, soit trouver un moyen de travailler main dans la main avec chacun son expertise, avec les fabricants existants. Et c'est plutôt cette voie-là qu'on a choisie.
Aujourd'hui, vous avez aussi des besoins. Vous souhaitez évidemment vous développer, développer notamment les offres de partenariat où vous vendez des produits, puisque vous vendez des produits semi-finis. Vos ateliers sont à Biarritz. Tout est fabriqué.
Ils sont à Anglette.
À Anglette, dans la pépinière, parce que
À côté de la pépinière.
À côté de la pépinière. Comment on peut lui tendre la main à Lundi Crescenzo? Pour l'aider à développer donc Wive pour Sylvain.
Bah écoutez, on fait ce qu'on fait aujourd'hui déjà.
Pour les CCI.
On fait savoir ce qu'il fait, mais je crois qu'il le fait déjà très bien. Mais on fait savoir, et ensuite on a toute une batterie d'accompagnement, recherche de financement, recherche de partenariat que l'on met en place. D'ailleurs, qui a dû déjà fonctionner à mon avis, mais ça veut dire qu'il faut l'accélérer. Et puis à l'international.
Ouais,
là-dessus, il faut savoir que sur la Team France Export, qui est l'équipe française de l'international, 80% des équipes, des ressources sont des ressources chambres de commerce. On a des programmes, donc avec des financements pour t'accompagner et vous accompagner à l'international. Donc on est présent, les chambres de commerce, c'est présent tout le long du cycle de vie des entreprises, de la création jusqu'à la transmission, en passant par le développement, y compris international. La transmission, elle a le temps. Et je pensais aussi à autre chose en termes de développement de business, c'est que comme il a breveté, et ça c'est très important, de protéger son savoir-faire et son innovation, il peut très bien fournir sa technologie à des fabricants aussi. En dehors de récupérer les shapes, ou le design des shapes, tu peux aussi fournir ta technologie et ça veut dire des revenus additionnels.
C'est tout à fait la prochaine étape.
C'est l'idée et c'est la prochaine étape. Il paraît que vous avez hésité à sortir votre planche en 3D aux États-Unis au début. Pourquoi ?
Oui, c'est ça. Bah, c'est là où il y a la plus grosse part de marché mondial et le cœur de l'industrie historique. Donc on était allé là-bas se déplacer avec les premiers protos et montrer
notre savoir-faire.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y aurait beaucoup d'étapes de recherche et développement et que justement la France était beaucoup plus attractive, un meilleur berceau de recherche et développement pour trouver des ingénieurs pour s'installer.
Plus le Pays Basque.
Et voilà, on est venu au cœur européen de la glisse, qui est le Pays Basque.
C'est formidable. Vous restez avec nous autour de la table de la France Bouge. Sylvain Fleury, vous êtes le cofondateur de Wive. On va passer à vous, Pierre Gonzalez. Vous êtes le directeur de la fabrique de Chistera Gonzalez.
Tout à fait.
Europe 1.
Le talent de la France Bouge.
Oui, vous êtes aussi un talent ce soir, Pierre Gonzalez, directeur de la fabrique de Chistera Gonzalez. Nous sommes toujours à Anglette, près de Bayonne, au cœur de cette pépinière d'entreprise dédiée notamment au sport de glisse. Hein. Ça tombe bien, on est à moins de 100 jours des Jeux d'été. C'est une émission spéciale avec les chambres de commerce et d'industrie. Pierre, vous avez 53 ans, c'est une entreprise familiale. On a eu aussi envie de mettre en avant ces belles entreprises familiales françaises et basques. Votre arrière-grand-père qui a créé l'atelier Chistera Gonzalez en 1887.
C'est ça.
C'est incroyable. C'est toujours ici, c'est toujours sur pied. Et surtout, c'est des Chistera, c'est pas ce qu'on utilise tous les jours.
Alors, au Pays Basque,
on
joue beaucoup à la pelote basque. Et c'est vrai que le Chistera, il est né à peu près il y a 200 ans. Et donc, ça fait émulsion. Et on s'est mis à jouer, à adapter le panier. Parce que Chistera, c'est la traduction de panier. Pour jouer à ce sport qui est magnifique. Parce qu'il se joue dans le monde entier aussi.
Donc vous, c'est important de revenir aussi sur votre parcours. Vous avez fait des études de comptabilité, tout en sachant, de toute façon, c'était évident que vous alliez reprendre l'entreprise.
Alors évident non, mais mon père m'a enfin, on est quatre frères dans la famille et il nous a jamais dit vous ferez ça. Ça viendra naturellement. Et donc c'est vrai que moi j'ai fait des études de comptabilité parce que j'avais l'occasion de faire ça, mes frères aussi. Et jusqu'au jour, moi c'est à 30 ans, j'ai dit, mais je veux faire ce métier-là. Et mon père m'a dit, écoute, je te laisse l'atelier, je te drive. Et
il vous a formé.
Et ouais. Alors, formé, sans être formé, c'est-à-dire que c'est dans une entreprise familiale et on est né dans la maison où il y a l'atelier. Donc, depuis tout petit, on est né dedans et la transmission se fait là, en fait. À l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, on est là. Quand il pleut, au lieu d'aller faire du surf parce qu'il pleut, eh bien, on tirait les osiers, on coupait le bois, on tournait le bois. Et en fait, c'est là que ça se transmet, ces métiers-là. Parce que c'est pas des métiers qu'on apprend à l'école, parce qu'il n'y a pas d'école.
Bien sûr.
C'est un métier de transmission. Et moi, j'estime à peu près entre 10, 15 ans d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on est de moins en moins à faire ça. On est peut-être une douzaine dans le monde à faire ça.
Donc, 12 dans le monde, énorme, Alain Di Crescenzo. 12 personnes dans le monde qui ont ce savoir-faire de Schistera. Mais d'abord, vous allez pitcher ce que c'est, parce que vous en avez apporté ces fameux paniers. Tout le monde ne connaît pas ces fameux paniers pour jouer, notamment à la pelote basque. Mm-hmm. Vous allez pitcher en une minute?
On va essayer.
Allez, on vous écoute. Pierre Gonzalez, directeur de la fabrique de Schistera Gonzalez. C'est à vous.
Alors le Schistera, il est né comme je disais à peu près de 100 ans, ça c'est un descendant du jeu de paume qui se pratiquait beaucoup à la main nue et les Basques qui jouaient à la main nue ont eu mal aux mains, enfin les pelotes sont devenues de plus en plus dures et ils ont voulu se protéger les mains, ils ont adapté des instruments. Alors il y a eu des palas, alors c'est les raquettes en bois que nous avons ici, des Schistera en cuir aussi et notamment le panier, donc c'est un panier à la base Schistera qui veut dire panier pour ramasser les fruits. Et ils l'ont adapté en coupant les anses, en façonnant un gant, parce qu'en français on dit petit gant ou grand gant, parce qu'il y a deux sortes de Schistera, parce que ça chausse comme un gant. Donc c'est adapté, c'est unique, c'est fait sur mesure par rapport au poste, par rapport au jeu de la personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de Schistera d'avance et c'est sur mesure. Il faut à peu près 2 ou 3 mois pour en avoir un. Et c'est très compliqué à façonner, d'où le fait d'avoir 12-13 ans d'apprentissage. Pour moi, mon premier gant, j'ai mis 12 ans à le faire. Mais alors, bien sûr, on fait autre chose, c'est plusieurs étapes et c'est plusieurs petits métiers.
La minute est passée. Merci de vous être prêté à cet exercice du pitch, Pierre Gonzalez. Alain Di Crescenzo, je vous voyais l'écouter quasiment religieusement, Pierre Gonzalez. C'est incroyable.
Oui, c'est incroyable parce que c'est
un objet dans le monde.
C'est un objet d'art. Je regardais, c'est magnifique. D'ailleurs,
vous pouvez nous le décrire, Alain?
Alors, c'est quoi? Alors, le panier, alors c'est une forme de crochet, je dirais, évidemment, il faut que ça puisse englober, donc, on ne dit pas la balle, comment tu dis?
On dit la pelote.
La pelote, voilà.
Attention, hein.
On dit, il faut englober la pelote.
Hyper précis.
Il y a, à la fois, c'est tressé, il y a du bois, il y a une forme géométrique qui est complexe à faire.
Et donc, puis, c'est un montage en bois hyper précis.
Il doit avoir un moulage assez compliqué. Mm-hmm. Et puis après, on y met une pièce de cuir, donc, dessus, et c'est parfaitement intégré. Donc, c'est un objet magnifique. On est fiers d'avoir ces entreprises chez nous. On en a 12 dans le monde et j'avais une question à lui poser.
Bah bien sûr, Alain, allez-y.
Parce que quand je vois le grand-père en 1887 qui crée ça, ou l'arrière-grand-père, c'est quoi la suite? Les enfants, ils sont là, comment ça se passait? Ça m'inquiétait un petit peu en écoutant ça.
Non, il ne faut pas s'inquiéter, ça se passe naturellement.
Regardez, il a fait des études de comptabilité, naturellement, il se dirige vers l'entreprise familiale.
Voilà. C'est un métier passionnant. Donc voilà, moi j'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression d'être à la retraite. Non, parce que voilà, on compte pas les heures, ça s'appelle l'artisanat, on fait beaucoup d'heures mais on voit pas le temps passer, on est dans un pays magnifique aussi. Donc ça se vient naturellement. Et mes fils, j'ai deux fils et une fille, et le premier a naturellement voulu venir à l'atelier depuis tout petit, et là j'ai le second qui m'en parle aussi. Donc voilà, donc et un petit peu comme mon père m'avait dit, fais tout ce que tu peux faire, pour essayer tout, il faut tout essayer. Et un jour, si ça te plaît, tu reviendras. C'est ce qui s'est passé. Et à l'âge de 30 ans, j'ai beaucoup voyagé, tout ça, et j'ai dit, mais je veux faire ça.
Il a fait le tour du monde pour revenir à la maison.
12 ans pour savoir faire, pour être en maturité. Et c'est ça, et l'entrepreneuriat, c'est ça aussi.
C'est du temps.
C'est la patience, c'est du temps long. On est dans le temps long, il faut jamais oublier ça. La spéculation, ça marche pas tout le temps, et même très rarement.
Et je précise aussi qu'on fait partie aussi de l'EPV. Aussi, on est,
entreprise du patrimoine vivant, ça veut dire qu'il y a un savoir-faire particulier et singulier qui permet d'obtenir ce label.
Alors, je le dis, surtout candidater au concours du Made in France, vous ne l'avez pas déjà fait.
On ne l'a pas vu au salon du Made in France.
On ne l'a pas vu.
Mais alors,
pourquoi ? Et vous non plus, et toi non plus, on ne vous a pas vu.
On vous attend, on vous attend. C'est chaque année à Paris, le salon du Made in France. Vous y avez toute votre place.
On veut du Made in France, on veut du basque.
On devrait faire un pavillon basque.
On va faire ça,
on va faire ça, Alain. Alain,
rigolez pas, ça peut se faire.
Rendez-vous pris, évidemment. Pierre Gonzalez, à qui vous vendez ?
Alors moi, je travaille que pour les professionnels, les joueurs de pelote. Hein, voilà. C'est un sport.
C'est quand les jours de pelote ? Pardon ? On va être au courant. C'est quand les jours de pelote basque ?
Les joueurs.
Les joueurs, d'accord.
C'est pour les. Parce qu'on vit de ce sport-là. Alors les jeunes basques sont formés ici dans les frontons.
20 à 30 heures de travail.
Ouais, entre 20 et 30 heures de travail. Alors les joueurs jouent dans le monde entier, donc ça se pratique en Amérique, donc c'est les professionnels quand ils ont ce statut-là voyagent et font les tournois là-bas. C'est des frontons casinos aussi qu'il y a en Amérique, au Mexique, à Cuba, et donc ils sont formés au Pays Basque et ils jouent dans le monde entier. Et après, ils reviennent ici.
Ils jouent dans le monde entier avec vos paniers, avec vos chisteras fabriqués ici. Ils sont où vos ateliers ?
Moi, je suis Anglette aussi.
À Anglette aussi, vous êtes tressés trois. Vous êtes trois dans cette entreprise.
Oui, alors il y a mon père qui tient un petit peu la boutique, mon fils qui est en formation et moi qui suis à la production. Ouais.
Il a quel âge votre papa ?
Mon papa, 83 je crois.
C'est beau, c'est beau tout ça.
Vous restez,
Trois générations pour une belle entreprise française et familiale.
Et familiale. Non. Important de garder nos entreprises familiales. Vous savez, c'est le complexe qu'on fait par rapport à l'Allemagne. Ne lâchez rien, s'il vous plaît.
Ne lâchez rien et surtout vous restez avec nous sur Europe 1. On va se retrouver, on va faire une petite pause. Vous savez, nous sommes à Anglette ce soir. C'est notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie. Mais tout de suite, on va revenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Alain Di Crescenzo, de ce film avec Dustin Hoffman dans les années 60-68. Le lauréat, vous vous souvenez ?
Ah, oh, j'adore.
Allez, on va faire une petite.
J'étais amoureux de la dame.
Eh ben, on va y penser. Allez, Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, et on se retrouve juste après avec André Garreta, le président de la CCI Bayonne Pays Basque. À tout de suite sur Europe 1. C'était Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Excellente soirée sur Europe 1. Et puis notez aussi vos rendez-vous Europe 1 comme culture média. C'est présenté par Thomas Hill du lundi au vendredi de 9h30 à 11h. C'est l'émission de référence sur les médias. Demain, Thomas Hill reçoit Artus et Alice Belaïdi pour le film Un petit truc en plus. C'est en salle. Donc à partir de demain.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. On se retrouve demain de 15h à 16h dans Historiquement Vôtre sur Europe 1.
Historiquement Vôtre.
Alors qu'un terrible accident lui a coûté la vie il y a 30 ans jour pour jour, je vous raconte le destin du pilote brésilien qui a traversé son époque comme les circuits à toute vitesse. La véritable histoire d'Ayrton Senna, le champion qui a trop vite quitté la piste.
Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern.
C'est demain de 15h à 16h sur Europe 1.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, ça fait 2 jours que je n'ai plus de dosette de café Senseo. Et du coup, je voudrais juste préciser un truc.
Oui, je vous écoute.
Il y en a certains qui disent que le café, ça énerve. Eh ben moi, je peux vous dire que le manque de café, ça énerve beaucoup plus.
Eh bien, passez vite nous voir, ça ira mieux. Et en plus, jusqu'au 4 mai, pendant l'opération Nos Super Pouvoirs d'Achat, pour l'achat d'un paquet de 60 dosettes de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Europe 1, la France bouge. 21h, 22h.
Elisabeth Assayag.
Et c'est une France bouge exceptionnelle ce soir parce que nous sommes au Pays Basque. Nous sommes précisément à Anglette. Et oui, c'est notre grand tour de France avec les chambres de commerce et d'industrie. 6e étape, hein. Ça passe vite, hein, lundi crescenzo. Vous êtes le coach de ce soir et évidemment président de CCI France. Elles sont toujours très belles, hein. Ces rendez-vous sont toujours très, très agréables.
Nous sommes hyper sympathique, hyper agréable. On apprend beaucoup de choses.
Qu'est-ce qu'on apprend comme chose?
Mais en plus, on a envie d'y rester.
Ah, mais oui. À chaque fois, on a envie d'élire domicile à l'endroit où nous sommes. Ce soir, c'est Bayonne. Bon, j'y suis particulièrement attachée. On a des très belles entreprises françaises parce que nous sommes à nous sommes à moins de 100 jours des Jeux d'été. Nous sommes avec Barbara Sayou, sa directrice générale de la Maison Forestier. Ce sont des selles de chevaux qui sont fabriquées ici, dans le Pays Basque, à Bidart, c'est ça, Barbara Sayous, entreprise qui a failli mourir plusieurs fois. Et non, elle est là, elle est debout, elle a été rachetée en 2016. Ils ont développé aussi l'entreprise, ils ont vendu à l'international et ça cartonne. Semaine de 4 jours, payé 5 jours, voilà. Il fait bon vivre au Pays Basque. Nous sommes avec Sylvain Fleury, le cofondateur de Wive. Lui, il est ingénieur, il a dit « bon, moi, je vais pas aller travailler à la Défense ». Je vais fabriquer avec mon associé des planches de surf en 3D. Ça cartonne, c'est fabriqué ici au Pays Basque. Pierre Gonzalez, directeur de la fabrique de Chistera Gonzalez. Lui, il maintient le jeu de la pelote basque. Combien d'heures de préparation vous l'avez retenu, Alain, pour
Alors, il faut 12 ans pour savoir faire un produit et être mature sur le...
Il y a 12 fabricants dans le monde. Ouais. Ça m'a frappé, ça. Entreprise du patrimoine vivant. Et si nous sommes ici ce soir dans cette très belle pépinière qui abrite des entreprises basques, c'est aussi grâce à la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne, Pays Basque.
Europe 1, l'invité de la France bouge.
L'invité, c'est aussi vous, André Garreta. Vous êtes le président de cette CCI Bayonne Pays Basque, une entreprise, une CCI qui accompagne, comme toutes les chambres de commerce et d'industrie, les entreprises locales. Ici, c'est même unique, parce que vous avez même créé, moi ça m'a frappé, une co-CCI, une co-chambre de commerce transfrontalière avec vos amis espagnols de San Sebastián.
Arratsaldeon Deneri, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes au Pays Basque, donc nous avons aussi une culture que nous défendons et nous sommes des gens de caractère.
Oui.
Alors oui, nous avons créé une chambre de commerce transfrontalière qui s'appelle Biartean en
basque. C'est unique ça.
Oui, c'est unique. On est les seuls en Europe à avoir créé une chambre de commerce transfrontalière. D'ailleurs, on a été plusieurs fois à Bruxelles pour se présenter. Donc, elle s'appelle Biartean, ça veut dire entre les deux. On vient de l'élargir. Donc là, c'est avec la Guipuscoa, c'est-à-dire avec la chambre de commerce de Saint-Sébastien. On vient de l'élargir avec la Navarre, donc avec Pampelune. hein, donc ça devrait s'appeler Iruartean, entre les trois. Et pourquoi cette chambre de commerce, c'est pas des murs en plus, ce ne sont pas des employés en plus. Nous avons mutualisé nos moyens, parce qu'aujourd'hui on considère que il ne s'agit plus de raisonner en limite administrative. La résonance aujourd'hui du territoire au niveau de l'économie doit se situer en bassin de vie, en bassin économique, en bassin d'emploi.
Donc elle est globale. Vous, votre parcours aussi nous a intéressé, André Garetta, parce que vous aurez dû être avocat. Finalement, vous n'avez pas été avocat. Vous avez été professeur des écoles en droit
non,
et gestion.
Non, pas des écoles, non, de lycée.
Professeur de lycée en droit et gestion, expert judiciaire. Et vous retrouvez président de cette très belle CCI. En quoi est-elle active? C'est-à-dire que oui, il y a la réindustrialisation, il y a de l'innovation, il y a de la formation. Mais là, on est dans cette pépinière qui abrite des entreprises à la base, des entreprises dédiées au sport de glisse. Vous avez voulu aller dans la plus pure économie locale qui existe ?
Tout à fait, mais on a voulu d'abord faire du Pays Basque un territoire d'innovation et de recherche. Mmh. Alors vous, qui êtes de Bayonne, vous connaissez les produits locaux, hein, le jambon de Bayonne, le piment d'Espelette, le gâteau basque, etc. À chaque fois que je vais à Paris, on me parle de ça. Sauf que nous avons souhaité aussi donner une image, hein, qui est celle de l'innovation et de la recherche. Nous avons créé, il y a 25 ans, une école d'ingénieurs qui s'appelle Estia.
C'est ça, c'est pas que le piment d'Espelette. C'est aussi autre chose. C'est cette école d'ingénieurs qui a formé combien d'ingénieurs?
Nous avons démarré, il y a 25 ans, avec 15 élèves ingénieurs. Aujourd'hui, nous sommes à 1066, hein, dans des domaines assez, je dirais, aujourd'hui, présents dans le monde de la production, dans tout ce qui concerne la robotique, la mécatronique, les systèmes embarqués. Et donc, de cette école d'ingénieurs, eh bien, nous avons eu faire un écosystème et derrière du transfert de technologie. C'est pour ça que nous avons créé plusieurs plateformes technologiques. Hein, oui, aujourd'hui,
on vous surnomme le fou furieux des plateformes ici.
Oui.
Oui. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de plateformes.
Mais parce que si vous voulez, je considère que si on veut réindustrialiser le pays, il faut accompagner les PMI. Sur non seulement maintenant on fournit la matière grise avec l'école d'ingénieurs, mais derrière avec tout ce qui est investissement en matériel, investissement lourd, ce qui fait que bon, nos entreprises eh bien peuvent venir dans ces plateformes pour faire de la recherche et innovation. On les accompagne avec nos élèves ingénieurs. Donc on a visité ce matin avec Alain, le CETIA avec Alain Di Crescenzo, notre président national. Le CETIA, c'est une plateforme qu'on a créée il y a un an et demi.
Ça, c'est pour le textile, hein.
Oui,
c'est
pour aujourd'hui le plus gros pollueur en France, c'est le textile, avec 200 000 tonnes de déchets par an. Et donc on a souhaité donc trouver quelques solutions dans l'économie circulaire, dans la recyclabilité. Donc aujourd'hui, cette plateforme travaille justement sur la décomposition, démembrement du textile pour récupérer derrière la matière première.
Donc vous, en ayant créé cette école, la Cécile, en ayant créé cette école d'ingénieurs, vous avez créé des cerveaux, de la matière grise, qui sont ici dans les territoires pour pouvoir ensuite exercer leur métier sur tous ces secteurs d'activité. Donc notamment le textile, mais aussi le sport.
Alors oui, le sport.
On est là aussi pour ça ce soir.
Les plateformes, je dirais, les plus en vue aujourd'hui, c'est par exemple Compositadour sur les matériaux composites, hein, notamment pour l'aéronautique, mais aussi Adimadour sur les techniques additives métallurgiques. Aujourd'hui, nous sommes les seuls en Europe à détenir les trois techniques existantes, hein, donc sur cette plateforme, hein, de chambre de commerce. Donc ce qui est pas rien, ce qui veut dire que la chambre de commerce, elle a chevillé au corps la volonté de faire de la croissance durable. Donc en s'inscrivant justement dans la circularité, en s'inscrivant dans l'économie durable, hein, pour faire donc en sorte que nos entreprises soient accompagnées dans cette...
Combien d'entreprises ? Donc 25 000 entreprises.
26 400.
Très précis. 26 400 entreprises accompagnées par la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne Pays Basque. Alain Di Crescenzo.
Oui, non, mais ce que je disais, c'est que cette chambre de commerce est exemplaire. Alors, c'est vrai que son président a du caractère, oui. Je le dis, c'est un vrai basque.
Mais ça vous plaît, alors?
Oui, j'adore les caractères. On en parle ce matin. Mais voilà, elle est exemplaire. Pourquoi? Parce qu'elle a développé tous les métiers. Tous les métiers. L'accompagnement, donc, on fait du commerce, on accompagne les entreprises du service.
On les forme d'abord, on forme.
Ça, c'est le métier de l'accompagnement. La formation,
avec
y compris école de commerce, école d'ingénieurs, et donc il y a de l'apprentissage aussi, et la gestion des infrastructures, parce que vous savez que la Chambre de commerce gère le port de Bayonne, entre autres, et toutes ces plateformes que je gère. Donc ça veut dire qu'on a une Chambre de commerce universelle et performante, avec à sa tête un président engagé et têtu.
Engagé et têtu, c'est les bons ingrédients pour faire une
c'est comme ça que ça marche.
Mais c'est ce que vous dites, moi c'est rare que vous le dites, ouais. Qu'elle fait figure d'exemple.
Oui, hein, c'est ça. Ouais. Donc, figure d'exemple, et encore une fois, voilà, il ne faut rien lâcher. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les chambres de commerce, et on a à la fois des exemples d'entrepreneurs, que je conjugue au féminin bien sûr, et bien sûr de présidents de chambres de commerce.
André Garétan, on va tous vouloir rester ici, hein.
Vous avez raison, je vous invite.
Bon, c'est ce qu'on va faire. Président de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne, Pays Basque, c'est déjà la fin de La France Bouge. Ça passe toujours trop vite. Vive le Pays Basque. On était contents d'être ici avec toute l'équipe de La France Bouge. Merci à Antoine Fenech et Clara Léger pour la préparation de l'émission. Merci aux équipes techniques, Fabien Duchesne, Paul Laporte, Alexis Geoffrey. Et évidemment, merci à nos invités. Merci de nous avoir accueillis, parce qu'ici, c'est nous qui sommes venus vous rendre visite. Bah, merci à Barbara Sayous, directrice générale de la Maison Forestier. Sylvain Fleury, bonne chance pour le développement de Y, vous en êtes le cofondateur. Merci à Pierre Gonzalez, bravo pour votre très belle entreprise familiale. Vous fabriquez des Schistera, fabrique Schistera Gonzalez. Merci à vous André Garretta, président de la CCI Bayonne Pays Basque, et à Lundi Crescenzo, président de CCI France. On se retrouve évidemment hein, bientôt.
Oui,
bah, j'espère bien, pour les Trophées Europe 1 de l'avenir, j'espère bien.
Ensemble, oui.
Ensemble, évidemment. Vous restez sur Europe 1, dans un instant, ce sera le journal de 22h présenté par Maëlle Hassani. Vous pouvez déjà commencer à appeler la libre antenne. Elle est présentée par Olivier Delacroix ce soir. Vous pouvez apporter votre témoignage en appelant tout de suite le 01 80 20 39 21. En plus, c'est un appel non surtaxé. Excellente soirée à toutes et à tous sur Europe 1.
C'était La France Bouge avec Generali PME Enterprise, les trophées qui valorisent les entreprises responsables. Candidatez sur generali.fr/PME durable. Generali, assurez vos vies.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, les forfaits mobiles, ça me donne l'impression de passer à la mairie. Tous ces gigas jusqu'à ce que la mort nous sépare, merci bien.
Dis calme, on a la solution. En ce moment, chez Leclerc, le forfait réglo mobile avec 130 gigas et les appels SMS, MMS illimités est à 9,50€ par mois. Et c'est sans engagement.
Sans engagement? Juré?
Mais oui. Le meilleur prix, c'est celui qu'on choisit. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc, conditions de l'offre consultable en magasin et sur réglomobile.fr.